Chapitre 34. Sous le ciel gris ardoise, les sapins qui bordent la route tremblent dans le vent. On annonce une tempête. D'après Grace, elle devrait frapper la côte ouest dimanche soir, ce qui laisse 48 heures à Becker pour remplir sa mission, même s'il a bon espoir d'être reparti dès ce soir. Demain matin ou plus tard. À la radio, il est question de « Ne vous retournez pas ». Encore du Maurier. L'adaptation en film de sa nouvelle célébrera bientôt ses 50 ans, et on parle d'une ressortie en salle pour l'occasion. Après avoir évoqué l'horreur hypnotique qui caractérise ce long métrage, le journaliste aborde les divers pièges qu'est capable de tendre un esprit torturé, et les motifs récurrents qui rappellent aux spectateurs que certains deuils sont insurmontables, certains destins inévitables. Becker éteint la radio. Peu avant d'atteindre la route côtière, il s'arrête pour faire le plein. À la caisse de la station essence, il pose son téléphone portable sur le terminal bancaire que lui tend l'employé et attend le vrombissement lui annonçant que la transaction est effectuée. Quelques secondes après, alors qu'il regagne sa voiture, il sent à nouveau la vibration dans sa poche. Un message d'Elena. « Est-ce que tu pourrais passer? Il faut qu'on parle. Bise. » Il s'arrête, les yeux rivés sur le smartphone. « Est-ce que je pourrais passer ?» Un coup de klaxon l'arrache à ses pensées. Le conducteur d'un break Volvo voudrait reprendre la route, mais Becker est planté au milieu du passage. Il s'écarte, revient à l'écran. Ce message a été supprimé. Becker sort ses clés, déverrouille sa voiture et s'installe au volant. « Mon fils s'empresse d'aller rejoindre votre épouse chaque fois que vous mettez un pied hors du domaine. » Lorsqu'il appuie sur le bouton de démarrage, il a les mains qui tremblent légèrement. « Ne t'en fais pas pour Léna, je serai là pour veiller sur elle. » Il enclenche la première et quitte la station. « Ça te laisserait le temps d'aller rencontrer Grace Aswell? Tu meurs d'envie d'aller à Iris. » Elena a été la première à lui suggérer de se rendre sur l'île. Ce jour-là, ils étaient tous les trois dans le bureau de Becker, et ils venaient d'apprendre la présence potentielle d'un os humain dans une des sculptures de Chapman. Becker a le cœur qui bat la chamade, la tête qui tourne. Après avoir vérifié dans son rétroviseur qu'il n'y a personne derrière lui, il attrape son portable. Il pourrait appeler Elena. Oui, mais pour lui dire quoi? Il pourrait aussi prendre à gauche, au prochain embranchement, et retourner à Fairburn sans prévenir. Il s'imagine, ouvrant discrètement la porte du logis et montant l'escalier sur la pointe des pieds. Il repose le téléphone sur le siège passager et tourne à droite en direction d'Iris. Grace l'attend en bas du chemin, devant la chaîne, les bras croisés. « Est-ce que je monte garer la voiture ?» s'enquiert Becker en ouvrant sa portière, et elle secoue la tête. « Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous vouliez me demander quelque chose ?» Becker soupire. « Qu'est-ce qu'elle a cette fois ?»« Oui, Grace, nous avons plusieurs sujets à aborder. Je ne peux pas continuer à faire des allers-retours ici pour régler cette histoire d'héritage. Alors il serait temps qu'on trouve une solution, parce que... »«
Je vois, »
l'interrompt-elle. « Moi qui croyais que vous étiez venu vous excuser, ou au moins me rendre la lettre que vous avez volée. » Pris au dépourvu, le conservateur commence à bredouiller des excuses. Grace s'éloigne déjà, non pas en direction de la maison, mais de la plage, et lui emboîte le pas. Becker plonge les mains dans les poches de son manteau et plisse les yeux pour se protéger de la lumière et du sable qui tourbillonne. Grace n'a que quelques mètres d'avance sur lui, mais à cause du vent, il a du mal à entendre ce qu'elle dit.
« Vous avez trahi ma confiance !» s'exclame-t-elle. « Vous m'aviez promis que nous travaillerions ensemble. » Et ensuite, vous avez pris cette lettre et vous êtes parti sans un mot, sans même...
Vous avez raison, concède-t-il à contre-cœur. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai aperçu le mot division et ça a été plus fort que moi. J'étais dans un tel état, je n'ai pas réfléchi.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas pensé à moi une seule seconde, pas plus que vous n'avez pensé à ce que je ressentirais en découvrant votre trahison. Je vous avais pourtant expliqué que ces lettres étaient personnelles. Et sinon, j'ai lu l'article qui vient de paraître. Je ne suis mentionné nulle part. Vous êtes comme les autres, en fait. Pour vous, je ne suis qu'un obstacle, un désagrément.
Mais pas du tout, proteste Becker en se mettant à trottiner pour tenter de la rattraper. Et il se sent à la fois ridicule et pitoyable. Vous ne devez pas croire une chose pareille, Grace. Je n'ai jamais voulu vous blesser, jamais. J'ai conscience que la perte des œuvres de Vanessa a été une épreuve très difficile.
Quelle perte ?
Rétorque Grace en se retournant soudain, le visage rouge et les joues inondées de larmes.
« Je n'ai rien perdu, moi. Vanessa a décidé de léguer l'intégralité de son travail à une fondation. C'est son choix. Comme vous l'avez dit dans le journal, elle n'avait personne d'autre à qui en faire don, pas vrai ? Elle n'avait absolument personne dans sa vie.
C'est le journaliste qui a dit ça, pas moi, proteste Becker.
Et il a eu tort. Si j'avais pu lire son article avant publication, je vous assure que j'aurais exigé une rectification.
Mais il repense alors à la remarque de Sébastien. L'héritier a souligné que Grace, supposément si proche de Vanessa, n'avait hérité de quasiment rien à la mort de l'artiste.
Pourquoi, à ton avis?
La mer est particulièrement agitée. De là où il se trouve, Becker voit l'écume d'un jaune bilieux qui coiffe la crête des vagues.
« Vous aviez quitté Eris, n'est-ce pas ? »
demande-t-il.
« Au moment où Vanessa vous envoyait cette lettre, vous viviez ailleurs, quelque part en Angleterre, d'après... »«
À Carlisle. » »«
Voilà. Et dans cette lettre, Vanessa vous a écrit que... »
Une cacophonie de cris stridents l'interrompt. Des goélands qui jouent dans le vent, plongeant, piqués, tourbillonnant comme des avions de chasse en plein combat aérien. Grace croise les bras et le regard tourné vers le large, elle confirme.
« Elle écrit qu'elle ne veut plus me voir. Après ce qui s'est passé avec Julian, elle a beaucoup changé. »
Grace se remet à marcher et Becker reste à ses côtés. Il s'efforce de ne pas se coller à elle, mais il ne veut surtout pas rater la moindre bribe de phrase.
Petit à petit, elle est devenue plus sauvage, toujours sur ses gardes, comme quelqu'un atteint d'un syndrome de stress post-traumatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle avait peur de tout. Elle se méfiait de tout le monde. Elle se mettait en colère pour un rien. Quand je lui ai suggéré de se faire aider, de consulter un psychologue, elle a piqué une crise de nerfs.
Becker est frappé par la similitude avec la situation de Lady Emmeline. Elle aussi soupçonnée de souffrir du même mal, elle aussi complètement réticente à l'idée de se faire accompagner. Mais il s'empresse de chasser de son esprit l'idée d'un parallèle entre une artiste qu'il admire et une vieille femme qui l'abhorre.
Est-ce qu'elle avait d'autres gens à part vous ?
Demande-t-il. Quelqu'un qui vous aurait prêté main forte ?
Dans ses derniers carnets, Vanessa ne parle quasiment de personne. C'est à peine si elle mentionne Frances ou... Elle a coupé les ponts avec tout le monde. Elle refusait toute visite. Pendant des mois, j'ai marché sur des œufs. Et puis, juste après Noël, 6 mois environ après la disparition de Julian, elle m'a demandé de m'en aller. De façon plutôt cruelle,
conclut-elle avec un long soupir. Elle se tourne vers Becker et se force à sourire.
J'étais bouleversé, mais j'ai obéi. J'ai dégoté un remplacement dans un cabinet en Angleterre et je suis parti. J'ai cru, je me disais qu'elle avait besoin de faire son deuil, d'être seule, de gérer la culpabilité qu'elle ressentait.
Becker la dévisage, surpris par cette révélation à mots couverts. Mais Grace poursuit.
Je lui ai souvent écrit, mais pendant des mois, elle ne m'a pas répondu. Un jour, j'ai reçu cette lettre, celle que vous avez prise.
Quand vous dites qu'elle avait besoin de gérer sa culpabilité, est-ce que vous sous-entendez que... Qu'est-ce que vous sous-entendez précisément ? La presse-t-il. Mais elle ignore sa question.
On devrait rentrer,
annonce-t-elle en mettant une main en visière pour scruter le large.
La mer a commencé à monter, il ne faut pas traîner.
Quand le conservateur lui fait remarquer que l'eau est encore loin et qu'il semble avoir de la marge, Grace a un petit ricanement.
« Vous seriez surpris par la rapidité de la marée et par la puissance du courant, »
dit-elle.
« Même dans quelques centimètres d'eau, on peut facilement perdre pied. »
Ils rebroussent donc chemin. Devant eux, les moutons d'écume qui roulent sur la plage évoquent des oiseaux effarouchés. Le ciel est particulièrement menaçant. On sent que la pluie n'est pas loin, mais, au moins, avec le vent désormais dans leur dos, il leur est plus facile de discuter. Becker décide de revenir à la charge.
« Vous disiez que Vanessa se sentait coupable ?»« Oui, par rapport à Julian. »«
Julian ?»«
Oui, Julian, »
répète Grace agacée.
« Elle devait estimer qu'elle aurait pu en faire plus pour lui. »«
C'est-à-dire ?»«
Lui accorder plus de temps, lui donner plus d'argent. »« Celui-là, de toute façon, il n'y avait que l'argent qui l'intéressait. »« Cependant, on n'a jamais vraiment abordé le sujet. »« Et après mon départ, il n'a quasiment plus été question de Julian. »«
Mais vous avez fini par revenir. » poursuit-il. Et devant l'air de Grace, il reformule. « Je sais bien que vous êtes revenu, mais dans quelles circonstances ? Vanessa avait changé d'avis ?»«
Elle avait découvert une grosseur. Elle était terrifiée, alors elle m'a demandé de rentrer. Supplier, plutôt. »
Il presse le pas et marche en silence vers la maison en regardant le sable gris sous leurs pieds. Alors qu'ils approchent de l'escalier, Grace trébuche et tombe lourdement sur son genou gauche. Becker s'empresse de lui venir en aide, mais elle le congédie d'un geste d'humeur et se relève seule, le visage rosi par l'effort et le souffle court.
« Qu'est-ce que vous avez d'autre à vous reprocher ?»
s'agace-t-elle soudain. « Pardon ?»«
Depuis que vous êtes arrivé, vous n'arrêtez pas de me regarder avec des yeux de chien battu. Vous avez reconnu que vous aviez volé la lettre. Nous avons parlé de l'article de journal. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ?»
Pour quelqu'un de si peu sociable, Grace est une femme perspicace, songe Becker, car effectivement il est préoccupé. Tout le temps qu'a duré leur conversation, il n'a pas arrêté de repenser à ce message qu'Elena s'est empressée d'effacer. Et les différents scénarios qu'il a échafaudés sont tous plus alarmants les uns que les autres. Mais ce n'est évidemment pas un sujet dont il a l'intention de parler à Grace. À la place, il lui avoue que le laboratoire chargé d'analyser Division 2 a fini par ouvrir la boîte en verre. Avant que Grace ait pu réagir, il poursuit. Les tests n'ont pas encore été effectués, mais on nous a déjà confirmé qu'il s'agissait d'un os d'origine humaine. Grace épousette le sable sur ses genoux et ses cuisses et se met à gravir les marches, la main crispée sur la rambarde rouillée.
« Est-ce que je vous ai déjà parlé des loups ?»
dit-elle sans le regarder. « Des loups ?»«
Pendant des siècles, cette île a fait office de cimetière. Les habitants de la côte venaient inhumer leurs morts ici, pour ne pas que les loups risquent de les déterrer. »
Journal de Vanessa Chapman. Pour qui est-ce que j'écris tout cela? Pas pour moi-même, j'imagine. Ni pour mes souvenirs, car dans ce cas-là, j'écrirais tout, non? Je ne laisserai rien de côté. Je pense beaucoup à Douglas depuis ma rechute. J'ai souvent envie de lui écrire, pour tout lui expliquer, mais j'ai l'impression qu'il est trop tard. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité sur le moment? Comme je n'arrivais pas à m'en souvenir, je me suis replongée dans mes carnets, mais je n'ai rien trouvé. Ils ne m'ont été d'aucune aide. Si j'avais la réponse à l'époque, mais l'ai-je jamais eue, je l'ai gardée pour moi. Pourtant, dans un sens, ces carnets, c'est moi, non? Ma mémoire n'est pas fiable. Ce n'est pas nouveau. Je crois qu'elle n'a jamais été très bonne. Du moins pas aussi bonne que j'en aurais besoin aujourd'hui. Je ne me souviens pas précisément des événements, de leur enchaînement, de qui a dit quoi, à qui et quand. Des images me reviennent. Je revois mes mains en sang, les éclats de porcelaine blanche éparpillés sur le sol de l'atelier, les tableaux détruits. Je revois le visage des policiers, ceux qui m'ont dévisagé avec leur air suspicieux et leur moue dubitative, comme s'ils savaient que je leur mentais. Voilà ce que je pense à présent. Avant même que je commence à mentir, il était déjà trop tard pour dire la vérité. Il était déjà trop tard. Il n'y avait plus de sang. Il ne restait plus aucune preuve. Alors, comment aurais-je pu leur dire à tous, à la police ou à qui que ce soit, « Regardez ce qu'il m'a fait. Il a essayé de me tuer. » Car je suis bien obligée de croire que c'est ce que Julian a voulu faire. Il devait savoir qu'en voyant ce désastre, je n'aurais d'autre désir que de m'allonger parmi les décombres et me laisser mourir. Le temps que je comprenne, il était déjà trop tard. J'étais partie en guerre contre Douglas, contre moi-même, contre Grace aussi, même si elle ne semblait pas s'en rendre compte. Je ne me souviens pas du moment où j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle, du moment où j'ai pris assez de recul pour que tout soit enfin clair, que l'arbre cesse de cacher la forêt, que la peau d'agneau tombe pour révéler le loup. Au fond, peut-être que je l'avais reconnu dès le départ, mais que j'étais trop effrayée pour l'accepter. Trop effrayée ou trop aveuglée par mon amour. Je crois qu'à l'époque, je ne savais pas encore que l'amour pouvait être assassin. Tout ce que je sais, c'est qu'il était déjà trop tard. Et à présent, il est trop tard pour en parler. Comment pourrais-je expliquer à Douglas aujourd'hui? J'arrive à peine à me l'expliquer à moi-même. Je me suis approprié l'horreur et j'ai créé à partir d'elle. J'ai peint. Et désormais, j'ai quelque chose à offrir. Je peux me montrer tendre. Je peux me montrer généreuse. Je peux faire amende honorable auprès de Douglas. Impossible de lui donner les œuvres que je lui avais promises à l'époque, mais je peux lui donner tout ce que j'ai fait depuis. Quant à Grace, je peux me montrer clémente à son égard.